La route des secrets. Entrons ensemble dans l'histoire, les mythes et légendes de la belle Occitanie. Bonjour chers amis, nous voilà avec plaisir ensemble ce dimanche matin pour une nouvelle histoire accompagnée de fantômes et d'êtres maudits. Aujourd'hui, nous restons dans le département, à la frontière du département de l'Aude et de l'Ariège, et nous allons rejoindre la merveilleuse ville, le merveilleux village de Bélestat, dont l'influence entra en terre d'Aude pendant bien des siècles. Bélestat, c'est bien sûr le Pays d'Olmes, c'est bien sûr l'Ariège, mais c'est aussi, pour la majorité d'entre nous, la forêt de Bélestat, ancienne forêt royale qui fut exploitée avant la Révolution pour les mâts de la flotte de Louis XIV. S'y trouve au cœur de cette forêt un endroit remarquable, sur un itinéraire balisé, le gouffre des Corbeaux, avec une profondeur de 110 mètres au-dessus duquel a été construite une plateforme d'observation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage hors du commun, un être particulièrement violent qui fit parler de lui pendant le XVIe siècle, à l'époque des guerres de religion. Car il existe, un peu à l'écart, en surplomb de Bélestat, un château. Le Castel d'Amon. Château d'en haut, qui aujourd'hui n'est que ruine envahie par la végétation, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Le Sieur d'Audou hante les lieux depuis des siècles. Il hante des lieux, son âme erre sans fin. Pourquoi vient-il errer dans ce lieu ? Cette âme erre dans les décombres et les souterrains secrets, arborant, dit-on, une écharpe en bandoulière composée d'oreilles de moine. Ainsi menaçait-on les enfants de Bélestat et des alentours de la visite du Bonnet-Orojo, s'il n'était pas sage. Le bonnet rouge en occitan, Bonnet-Orojo. Aoudou! Voilà comment on exprimait aux enfants du Pays de Sceaux, aux enfants de Pays d'Olmes, l'arrivée de celui qui faisait trembler les familles. Et quand on entendait ce bruit, il fallait s'enfuir très vite. Car derrière ce hurlement qui ressemblait à celui du loup, se cachaient les terribles casaques noirs, commandés par le Sieur d'Aoudou. tous, étaient vêtus de noir, disais-je, et montaient des chevaux de la même couleur. Seule la barrette rouge d'Aoudou, 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 le distinguait de ses hommes. Nous sommes au XVIe siècle et depuis 1557, la guerre de religion fait rage dans le pays d'Olmes et dans le pays de Foix et déborde progressivement sur le pays de Sceaux et cette partie de l'Aude. Le sieur d'Aoudou, ayant embrassé la réforme, c'est-à-dire étant devenu protestant, se bat avec environ une centaine d'hommes pour prendre ou reprendre ville et village aux catholiques. En fait, chers amis, ce sieur d'Aoudou et ses hommes massacrent, pillent, incendient et rançonnent à la manière des brigands. Aoudou et ses hommes acquièrent une terrible réputation de monstres sanguinaires. Une violence rare, imaginons non pas quelques individus, mais des centaines de personnes passées par le fil de l'épée, égorgées, rançonnées pendant des années. Il a une action terrible sur le territoire et la guerre de religion est un mal sans fin. En particulier, on parle des prises sanglantes de Tarascon sur Ariège. Mais que s'est-il donc passé le 27 septembre 1568 ? Nous allons le découvrir immédiatement. Eh bien, en fait, Aoudou et ses troupes prennent Tarascon, ou tout au moins ils essayent. Ils arrivent armés, la ville essaye de se défendre, mais ils rentrent dans la ville. Il est possible qu'ils aient été aidés par divers bandouliers. C'était le nom que l'on donnait aux bandits de grand chemin. Il est possible donc qu'ils aient été aidés par divers bandouliers, comme le catalan Joan Escuder, qui d'ailleurs sera accusé pour ce fait par l'Inquisition en 1571. Dans la réalité, tout semble séparer les deux camps, si ce n'est la haine meurtrière qui les anime. Ainsi, à la prise de la ville de Tarascon sur Ariège, tous les soldats catholiques du château sont égorgés, un par un, terrible. Et le curé d'Ornolac, nommé Jean Baron, à qui Aoudou demande de renier sa foi catholique, et donc ce curé qui refuse d'abjurer sa foi est torturé, puis jeté dans un gouffre. Il est jeté exactement dans le gouffre de la Maire du haut du rocher de Castella. Incroyable! Aoudou et ses hommes se dirigent ensuite dans le faubourg de Tarascon sur Ariège et là, ils détruisent l'église de Savart et l'oratoire de Saint-Pierre. Ils s'attaquent à la pierre, il s'attaque aux symboles visibles. L'année suivante, c'est le catholique Traversier, sieur de Montgascon, baron de Miglos, qui reprend la ville au prix de nouveaux massacres. Les Huguenots et leur chef Plagne sont massacrés à leur tour. Pour venger la mort du curé d'Ornolac, plus de 60 protestants sont précipités dans l'Ariège. Quelle horreur ! L'histoire se répète ainsi lorsqu'après de nombreux combats, entre 1580 et 1582, Aoudou finit par récupérer à nouveau Tarascon sur Ariège. En 1584, Aoudou est nommé sénéchal et lieutenant du comté de Foix par Henri de Navarre, le fils de Jeanne d'Albret, né, dit-on, à Pau, et Aoudou, devenant lieutenant du comté de Foix et sénéchal, devient un seigneur très influent. Mais le temps des rapines est terminé. Henri de Navarre devient roi de France. Aoudou tente de mettre fin au conflit qui reste vivace. Mais le mal est fait. Pendant des années, il a égorgé, passé par le fil de l'épée, des centaines de personnes. Et cela lui colle à la peau. Il est connu, reconnu comme un assassin notoire. Dans les dernières années de sa vie, n'ayant plus de réelle influence auprès du roi, il est écarté du pouvoir politique par l'Église qui a repris le dessus. Quand je parle de l'Église, je parle bien sûr de l'Église catholique. Et la noblesse des alentours, qui est envieuse de ses biens, le repousse, le rejette et il est écarté progressivement. Le sieur d'Aoudou, dit Buneto Rojo, finalement mourra seul dans son castel d'Amont le 11 février 1598. Nous touchons à la fin du XVIe siècle, car ni sa femme ni ses enfants ne voulurent habiter le château. La légende raconte qu'il fut enfermé dans un cercueil en plomb et que, ne sachant où l'enterrer tant la situation était délicate entre catholiques et protestants, il fut placé, son corps fut placé un temps dans la pièce de réception de son château. Aoudou aurait été conduit par la suite à l'église du Val d'Amour qui abriterait, selon la légende, un mausolée de sa famille. Certains diront qu'il fut enfoui sous les dalles de l'allée centrale de cette même église. Quoi qu'il en soit, la haine resta si vivace à son encontre que des catholiques endommagèrent fortement le castel d'Amont, qui resta abandonné jusqu'à la Révolution, où différents propriétaires se succédèrent. Nous allons en reparler dans quelques instants. L'un d'eux acheva de détruire le château à grands coups d'explosifs dans la muraille défensive afin de vendre les matériaux récupérés. nous pourrions parler évidemment quelques instants de ce château qui a été, il faut le dire, une forteresse fort intéressante. Si vous avez l'occasion de passer par Bellestat, vous verrez que fièrement planté sur un promontoire à l'ombre de tilleuls majestueux, le château d'Amont veille sur le village de Bellestat depuis 5 siècles. Vous l'avez compris, c'est un témoin imposant de l'histoire tourmentée de la région, d'Occitanie et de ce coin en particulier du pays de Sceaux, du pays d'Olmes et du pays de Foix. En fait, c'est un témoin imposant de l'histoire tourmentée de la région, mais car il est attaché à un personnage, à ce personnage controversé dont nous venons de parler, qui s'appelle Jean-Claude de Lévis-Lérand, sire d'Audou, comme je disais tout à l'heure. Il fut craint, détesté, respecté, puis saccagé. Depuis 2015, des dizaines de bénévoles motivés, des bénévoles locaux ou de toute la France, se rejoignent et ont entrepris de sauver de l'oubli ce château. Toutefois, rappelons-nous que ce château d'Amont, à Bellestat, et le sire d'Audou sont indissociables. Il faut se remettre un petit peu dans le contexte que je décrivais précédemment. Vous savez, chers amis, que les comportements et dérives pratiqués par le haut clergé de l'Église catholique en ce temps-là, parfois très éloignés des principes même de la foi, font naître au début du XVIe siècle une contestation de la hiérarchie ecclésiastique et de son sommet, le pape. La doctrine contestataire d'un moine allemand, nommé Luther, élaborée sur la base d'un retour aux valeurs de la Bible, se répand partout en Europe, et un jeune humaniste, Jean Calvin, va contribuer à faire progresser ses idées en France. Beaucoup de gens du peuple, mais aussi une partie de la noblesse, vont y adhérer. Si je dois le reprendre dans le contexte, tout cela n'est pas du goût de l'autorité papale et de la royauté, et une répression parfois violente contre ceux que l'on appelle désormais les protestants, car ils protestent en permanence, va se transformer en véritable guerre civile à partir de 1562, suite au massacre d'habitants du village de Vasy en Champagne, qui aurait été perpétré par les troupes catholiques du duc François de Guise. Les affrontements entre catholiques et protestants vont se généraliser partout dans le royaume de France. Dans l'Aude, dans l'Ariège, des combats entre les deux camps ont lieu dès 1562 avec les habituels pillages et tueries, notamment à Castelnau d'Urban et à Pamiers, et une assemblée protestante se tient à Mazères en 1567 et organise la lutte armée. Elle met à sa tête le précédemment nommé Jean-Claude de Lévis-Lérand, baron de Bellestat, Fougas et l'Aiguillon, surnommé sire d'Audou. Dès lors, sa troupe, nombreuse, bien équipée, mais peu sujette à la mansuétude, va se distinguer par un certain nombre d'exactions. Assassinat, et en particulier assassinat du curé Baron, dont je vous ai parlé tout à l'heure, prêtre de Tarascon en 1568, précipité dans l'Ariège car il refusait d'abjurer sa foi, et resté dans l'histoire. La légende du sire d'Audou, combattant féroce et sans merci, est née. Les armées restaient fidèles au pape et à l'Église catholique qui se comportent aussi brutalement que les troupes du sire d'Audou attaquent le château de Lérand, demeure de Jean-Claude Lévis-Lérand. Le château est sauvé de justesse, mais les sires d'Audou, inquiets de ses lacunes défensives, décident de construire une forteresse moderne capable d'abriter sa troupe et pouvant résister aux assauts. Le projet du château d'Amont est né. Oui, vous avez bien compris, le château d'Amont est en fait une forteresse protestante. Si vous avez l'occasion de passer à Bélestat, comme je disais, allez vous balader, allez découvrir ces ruines, car dès 1569, le sire d'Aoudou y a lancé la construction d'un château sur les hauteurs dominant le village de Bélestat. Vous le découvrirez, c'est un quadrilatère de 45 mètres de côté, ceinturé par de hauts remparts d'1,70 m d'épaisseur, renforcé aux angles par 4 tours carrées massives. Une cinquième tour en saillie du rempart est défend l'entrée de la forteresse. Des bâtiments sont adossés au rempart tout autour de la cour. La tour sud devait abriter le logis seigneurial où vivait justement le sire d'Aoudou. Le site est alimenté en eau courante grâce à un captage du ruisseau situé en amont du château. Et un inventaire de 1584 décrit en détail le logis seigneurial. Le site, capable de résister à un assaut en règle, était en outre défendu par 2 canons, armement rare pour l'époque, mais il ne fut jamais sérieusement attaqué. La disparition de Jean-Claude de Lévis-Lérand en 1598, farouche guerrier mort seul dans son lit, et à la fin des guerres de religion, provoque l'abandon du château dès le début du XVIIe siècle. Nous sommes sous le règne de Louis XIII, puis Louis XIV, et le château tombe alors dans l'oubli et est livré au pillage. Il est vendu comme bien national à la Révolution et sert de carrière de pierre. Il a été racheté au début du 19e siècle, par François Cordier. Il a été en partie réhabilité, avec notamment la reconstruction de tout le mur nord, mais il est à nouveau très vite délaissé et livré aux assauts du temps et de la végétation qui peu à peu l'ont envahi. Recouvert de ronces, de lierres et d'arbres, parfois centenaires, il menace de disparaître, mais il est racheté en 2015 par l'association de sauvegarde du château d'Amont qui entreprend le sauvetage. Aujourd'hui, en 2023, il est de nouveau accessible et reste un témoin majeur des guerres de religion en Ariège et dans cette partie de la frontière de l'Aude qui nous intéresse. Chers amis, si je dois vraiment insister sur le sieur d'Aoudou, c'est aussi pour vous rappeler que Jean-Claude de Lévis-Lérand, baron d'Aoudou, de Bélestat, de Fougas, de L'Aiguillon, comme je disais, est descendant en ligne directe de Guy Ier de Lévis, qui s'est illustré pendant la croisade albigeoise, aux côtés de Simon de Montfort, 3 siècles plus tôt. Son ancêtre participa activement au siège de Béziers, Termes, Castelnaudary, Beaucaire et Toulouse. Simon de Montfort déposséda le fédit Pierre-Roger de Mirepoix et donna ses terres à Guy, qui deviendra dès lors seigneur de Mirepoix. La famille Lévis-Mirepoix s'implanta durablement en Languedoc, et ainsi le baron d'Aoudou comptait parmi ses ancêtres un ardent défenseur de la cause catholique contre l'hérésie, étrange réalité que celle des descendances familiales. L'ironie du sort fit que, de lui, 300 ans plus tard, le pire cauchemar que la famille Lévis-Mirepoix aurait pu imaginer. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, chers amis, nous avons retrouvé ce château d'Amont, D'Amont, à Bélestat. Je vous invite encore une fois à découvrir ce lieu. Et quand vous irez sur place, rappelez-vous de ce témoin majeur des guerres de religion en Ariège et dans l'Aude. Et rappelons-nous aussi les horreurs de la guerre et, comme l'on dit encore aujourd'hui, l'âme l'âme du seigneur Daoudou erre, ai-je besoin de vous le rappeler, erre dans les décombres et les souterrains secrets, arborant, dit-on, une écharpe en bandoulière composée d'oreilles de moine. Nous allons continuer notre chemin sur la route des secrets et nous allons nous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures, histoires, mythes et légendes de la belle Occitanie. À bientôt.